Chapitre 3. Révéler le besoin. Léo tire doucement une chaise et s'installe face à eux, un sourire franc au coin des lèvres qui accroche immédiatement la lumière. Il a la carrure d'un sportif, la voix grave d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a beaucoup parlé en public et une présence presque hypnotique. Mais dès qu'il commence à parler, on sent le contraste. Ses mots sont nets, précis, sans fioritures. Pas de grands discours, du concret. Max annonce d'un ton solennel. « Bon, je vous présente Léo, un serial entrepreneur avec 10 licornes à son actif. » Julien écarquille les yeux, augmentés derrière des lunettes un peu trop larges pour son visage étroit. Sa silhouette d'étudiant perpétuel, épaules maigres, chemise froissée, jean trop long, tranche avec l'assurance musclée de Léo. Sous ses paupières, deux halos violacés trahissent des semaines de nuit blanche. D'un geste réflexe, il repousse la mèche rebelle qui tombe sur le front et il lâche un « 10 !» incrédule. Léo explose de rire. Attends, Max, tu veux me faire passer pour Elon Musk ou quoi? Corrigeons tout de suite avant qu'il s'imagine que j'ai des fusées dans mon jardin. Max réprime un sourire pour rester solennel. Tout de même, à 16 ans, en parallèle de tes études d'ingénieur, alors que tu étais déjà le Benjamin de la promo, tu montes une start-up médicale qui bouleverse la donne. Léo lève les mains, comme pour dire stop, et sourit. Bon, soyons honnêtes. Oui, j'ai cofondé cette boîte avec mon oncle, qui connaissait le terrain par cœur. Pendant mes années d'études, j'étais loin d'être le génie derrière le truc. Mais oui, on a sorti un logiciel qui permettait aux soignants de centraliser le suivi patient et surtout d'identifier des points communs entre cas rares. Ça a aidé à accélérer la recherche sur certains cancers. Là-dessus, j'avoue, on peut être fier. Julien lâche un « waouh » admiratif. Assise près de lui, Sophie partage la même pâleur studieuse. Ses cheveux châtains, rassemblés à la hâte en un chignon d'où s'échappent quelques filaments rebelles, sont le premier indice de longues soirées passées devant un écran. Elle a le tic d'effleurer la tempe gauche de l'ongle quand elle réfléchit, puis de mordre légèrement l'intérieur de sa joue avant de parler. Elle relance Léo dans le récit de ses exploits. « Et t'avais quel âge, déjà ?»« 17 ans, mais relax, hein. À cet âge, j'étais surtout un geek en t-shirt qui dormait pas. Et franchement, j'ai fait toutes les erreurs possibles. » Max se reprend enthousiaste. Et puis, à 18 ans, tu crées le concept d'Intuitive Online Learning. Léo se marre en secouant la tête. Ouais, ça c'était fun. J'étais persuadé que l'éducation française était bloquée au 18e siècle. J'ai voulu créer un truc qui fabrique des cours en direct en fonction de questions que se posent les étudiants. Super idée, gros buzz et grosse panique du gouvernement quand des gamins se sont retrouvés à sauter 3 niveaux en 1 an. On a eu droit au débat télé sur « faut-il encore en lycée ?» et tout le tintouin. Spoiler, j'ai aussi failli me faire lyncher par des syndicats. Sophie rit franchement cette fois. Sérieusement ? Sérieusement ? Et devine quoi ? Je me suis fait sortir de ma propre boîte après 2 ans. Trop d'erreurs opérationnelles, pas assez de process, ça pique mais ça forme. Max, imperturbable, enchaîne comme s'il lisait une liste. Ensuite, mobilité urbaine, IA et même l'accompagnement des managers. Léo l'interrompt encore. Max, arrête avec tes superlatifs, oui, j'ai bossé sur des trucs cool, oui, il y a des réussites, mais derrière chaque succès, il y a des nuits blanches, des pivots à la dernière minute et des baffes monumentales. Je suis pas une légende, je suis juste un mec qui aime tenter des trucs et qui a survécu assez longtemps pour en raconter les pires moments. » Il ponctue sa phrase d'un clin d'œil, déclenchant un éclat de rire général. Mais derrière l'humour, un détail, la façon dont Léo vérifie son téléphone à intervalles réguliers comme s'il portait le poids d'une autre réunion à venir, d'un autre pari en cours. L'air s'est chargé d'une tension curieuse. Celle des histoires qui inspirent autant qu'elles intimident. C'est au tour de Julien et Sophie d'expliquer leur parcours, leur vision et les zones d'ombre qui freinent leurs avancées. Léo écoute avec attention, les bras croisés sur la table, les yeux légèrement plissés de concentration. Autour d'eux, le café bruisse doucement, les murmures se mêlent au cliquetis des tasses, un four à micro-ondes émet un bip aigu et l'odeur tiède du café réchauffe l'air. Une mère berce un nourrisson près du radiateur, un agent hospitalier échange quelques mots avec une collègue en souriant, tandis qu'au loin, un chariot de vaisselle claque doucement contre le linoléum. Julien termine en soulignant la nécessité de confronter l'idée au terrain. Un éclair de malice traverse le regard de Léo, ses mains se rejoignent, paume tournée comme s'il dévoilait une carte invisible. « Et si on testait maintenant ?» Sophie cligne des yeux interloqués. « Maintenant ?» Léo, prenant plaisir à l'étonnement qu'il vient de provoquer, continue sa démarche. « Oui, pourquoi pas ne pas organiser un petit focus group ici ? Regardez autour de vous, il y a des soignants, des patients, des visiteurs de tout horizon. Vous trouverez pas mieux pour un retour à chaud. Une feuille, un crayon, deux, trois questions bien posées, et vous saurez très vite ce qui résonne, ce qui dérange, ce qui intrigue. » Sophie bascule presque en apnée. Son regard s'accroche à Julien, comme s'il était la dernière rambarde de sécurité. Ses mains tremblent autour du prototype qu'elle a apporté avec elle, déjà dissimulé dans un sac à dos sélectionné pour être le moins attirant possible pour les regards indiscrets. « Dans un hôpital ?» Sa voix chevrotte. « Mais nous ne connaissons personne. On risque de déranger les gens pour pas grand-chose. En plus, ça expose notre concept à un groupe potentiellement large avant que nous n'ayons sécurisé notre propriété intellectuelle. Tu te souviens, Julien, de cette start-up lyonnaise qui s'était fait doubler après une simple démo clinique ? Un interne avait discrètement filmé leur appareil, la vidéo s'est retrouvée sur un forum de biomédical à Shenzhen et 3 mois plus tard, un clone circulait au salon Medica. Julien blêmit. « Léo, c'est trop compliqué, tout peut partir en fumée », murmure-t-il. « Un simple selfie, un enregistrement de nos échanges et on perd des années de R&D. » La salle semble soudain trop exiguë, saturée de menaces invisibles. Leur silence pèse. Traversés par l'angoisse que leur invention s'échappe au premier battement de porte. Julien souffle, se reprend et se retourne vers Léo, souhaitant clarifier la position. « Excuse-moi Léo, mais tu pourrais nous expliquer exactement ce que tu entends par focus group et comment ça pourrait nous être utile ?» Léo s'exécute. « Bien sûr ! Un focus group est essentiellement une session de discussion dirigée avec un petit groupe de personnes. On l'utilise pour recueillir des opinions et des réactions sur un thème ou un produit, un service ou une idée, avant d'aller plus loin. Ça nous aide à détecter les besoins potentiels, à comprendre les attentes et à recueillir des avis en intelligence collective. C'est un moyen rapide et direct d'obtenir des feedbacks qualificatifs qui peuvent être cruciaux pour affiner un produit. Sophie, tes craintes sont légitimes, mais souviens-toi, une idée, c'est comme une graine portée par le vent. Si tu l'enfermes dans un coffre pour la protéger, elle se dessèche. Si tu la mets en terre et l'arroses avant les autres, elle germe et devient chêne. Dans ce métier, personne ne peut breveter le vent. Les tendances soufflent partout. Ce que tu imagines, ce matin, des dizaines d'équipes le rêvent déjà quelque part. Regarde Kodak. En 1975, l'ingénieur Stevenson avait construit le tout premier appareil photo numérique. La direction a gardé le prototype sous clé pour ne pas cannibaliser la pellicule. Pendant qu'elle verrouillait l'idée, Sony, Canon et les autres ont surfé sur la vague numérique. Résultat, en 2012, Kodak déposait le bilan, doublé par ceux qui avaient transformé la même idée en produit, puis en marché. La vraie valeur n'est donc pas dans le concept tenu, mais dans notre capacité et notre vitesse à le façonner, à le confronter au terrain et à en faire un modèle durable. Autrement dit, faisons pousser l'arbre plutôt que de collectionner les graines. Julien, légèrement ému. Mais on a développé la technologie. C'est pas qu'une simple idée, l'arbre est dans ce sac. Léo, gardant son calme, lui répond avec une pointe de fermeté. Julien, je salue l'exploit, franchement. Concevoir un casque de lecture cérébrale à 5, dont 2 stagiaires en 2 ans, en empilant des briques open source, c'est remarquable. Mais il faut distinguer un bijou technologique d'un produit qui se vend vraiment. Souviens-toi de Magic Leap One. Techniquement bluffant. Plus de 3 milliards de dollars levés, des optiques light field dignes d'un film de science-fiction. Pourtant, faute d'usage clair et de prix supportable, à peine quelques milliers d'unités ont quitté les entrepôts avant que la société ne licencie en masse. En face, MetaQuest 2 s'est contenté de composants plus rustiques, mais avec une proposition simple, jouer et sociabiliser en VR sans PC. Résultat, 10 millions de casques écoulés en moins de 2 ans. Votre prototype, c'est du Magic Leap artisanal, brillant, fascinant, mais fragile. Or, pendant que vous bidouillez à 5 sur des bases open source accessibles à tous, des géants, Neuralink, Meta, Microsoft, Tencent, financent des équipes de 100 ingénieurs, commandent leurs propres ASICs et achètent des chaînes de production entières. Sans un cap commercial précis qui utilisera le casque, pour quel bénéfice immédiat, à quel prix, avec quel SAV, vous courez le risque de rester les pionniers sympathiques que l'on cite et que les poids lourds dépassent ? Sophie et Julien restent silencieux un instant, le poids des paroles de Léo résonnant dans la salle. Léo ajoute : Rappelez-vous, une idée qui réussit a beaucoup plus de valeur qu'une idée parfaitement sécurisée qui ne sort jamais du garage. Il est crucial de trouver le bon équilibre entre protéger votre concept et le tester dans le monde réel pour le valider et l'améliorer. Aussi, concentrez-vous sur les besoins de ces personnes plutôt que leur avis sur votre technologie. D'ailleurs, concentrez-vous sur leurs besoins et non sur leurs avis. Julien intervient, perplexe. Léo, tu nous conseilles de nous concentrer sur les besoins des personnes sollicitées, mais en même temps, tu dis que leur avis est secondaire. Il n'y a pas une contradiction ici ? Léo reprend. Non, il n'y a pas de contradiction. Vous vous rendez vite compte, en observant vos interlocuteurs, qu'il y a une différence entre ce qu'ils vous disent, ce qu'ils font et ce qui les dérange réellement factuellement. Par exemple, un individu pourrait critiquer l'ergonomie de votre casque tout en l'utilisant fréquemment dès votre premier prototype fonctionnel parce qu'il répond à un besoin crucial. Aussi, les avis peuvent être influencés par plusieurs facteurs, comme la réticence à offenser, le manque de perspective sur leurs propres besoins ou même leur humeur du moment. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer les besoins factuels des simples opinions et de ne surtout pas parler de votre solution. Henry Ford lui-même a un jour dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. » Max se procure un prospectus sur le bar de la cafétéria et dessine un tableau sur la partie la plus libre. « Retenez ça, insiste-t-il. On est encore dans la colonne de gauche. Si on saute tout de suite à droite, on teste le pansement avant de connaître la plaie. » Julien, inquiet. « Mais sans rien montrer, ils vont penser qu'on vend du vent, » murmure-t-il. Léo secoue la tête. « Au contraire, c'est comme servir un soufflet avant de demander si les convives tolèrent le lactose. Aujourd'hui, on écoute. » Il se tourne vers Sophie. « Imagine que ton casque soit déjà parfait. Quel problème réglerait-il ici ?» Cette question met fin au débat, rappelant à Sophie et Julien pourquoi ils l'avaient sollicité au départ. Enthousiasmés, mais toujours craintifs, Sophie et Julien décident de relever le défi malgré les risques. Ils préparent alors, avec soin, le focus group qu'ils s'apprêtent à mener à l'hôpital. Le premier objectif est clair, identifier des cas d'usage à forte valeur ajoutée pour leur casque de lecture de pensée. Ils savent que cette étape est cruciale pour déterminer la désirabilité de leur produit, un élément essentiel pour transformer leur intention en un business viable. Léo quitte l'hôpital tandis que Max dit rendre visite à un patient qu'il connaît. Toujours attablée dans la cafétéria, Sophie ouvre un carnet, liste au crayon les informations qu'ils veulent extraire. Julien l'observe un moment surpris. D'où te vient cette méthode de focus group ? Nous n'avons jamais organisé depuis le début du projet. Sophie, un peu gênée, lui répond. J'ai suivi un module de recherche utilisateur à l'université, mais j'avais peu mesuré son importance tant que nous étions absorbés par la technique, explique-t-elle. Aujourd'hui, il faut comprendre les circonstances réelles où notre casque créera de la valeur. Il décide donc de transformer le focus group en véritable atelier d'idéation. Recueillir un éventail de situations où la communication se brise, puis voir comment leur technologie pourrait la rétablir. La variété des profils présents, soignants, ouvriers, visiteurs, devrait faire surgir des cas d'usage qu'ils n'auraient jamais imaginés. Et qui sait, ouvrir la porte à des besoins encore cachés. Pendant leur réflexion, Sophie prend de nombreuses notes. Elle tente alors de prendre un peu de recul pour identifier les pièges à éviter. Biais de confirmation, désir de plaire, effet d'autorité. Julien relève la tête et demande. Le biais de confirmation, je crois comprendre. Mais tu peux préciser ? C'est éviter d'orienter la réponse par la question, non ? Sophie s'écarte du clavier. En partie, oui. Plus exactement, c'est notre tendance à ne répéter que ce qui confirme nos idées. Sophie choisit d'expliquer en utilisant deux exemples qu'elle écrit sur son ordinateur avant d'orienter l'écran vers Julien. Premier exemple, utilisez-vous déjà des casques de communication au travail ? Deuxième exemple, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans vos outils de communication actuels ? La première, explique-t-elle, est une question fermée. Utilisez-vous déjà des casques de communication au travail ? On te répond oui ou non, et tu restes prisonnier de ce cadre. La seconde est ouverte. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans vos outils de communication actuels ? Elle invite la personne à raconter son expérience, à critiquer, à nuancer. Julien plisse les yeux, puis y hoche la tête. D'accord? Et si quelqu'un répond juste tout va bien? Alors on relance. Sophie pose son stylo et mime l'échange. Qu'est-ce qui fait que tout va bien? Peux-tu me décrire un moment où l'outil t'a vraiment aidé? Ou au contraire, un moment où il t'a freiné? Chaque relance rouvre le champ au lieu de le refermer. Julien note dans son carnet. Question ouverte. Qui, quoi, comment, pourquoi? Jamais oui, non. Puis il propose une question sur le focus group. Quels aspects de vos outils de communication aimeriez-vous voir disparaître ou évoluer? Sophie est satisfaite. Parfait. Avec ça, on a à la fois une question ouverte et on minimise le biais de confirmation. Les participants ne cherchent plus à valider notre idée, ils décrivent la leur. En plus, c'est plus court que ma question initiale. Il est important que les questions soient courtes et claires pour ne pas perdre les participants ou les mettre dans une situation qu'ils perçoivent comme humiliante ou dans laquelle ils n'oseraient pas pleinement participer. Sophie ouvre une autre problématique. Tu sais, Julien, il existe un piège subtil dans les focus groupes, le biais de groupe. Dès qu'une voix charismatique s'élève, tout le monde se met à tourner dans son orbite et les idées originales disparaissent. Julien ne croit pas dans les propos de Sophie. Tu penses qu'on va avoir une star dans l'assemblée, Sophie? T'es pas en train de faire du perfectionnisme? Sophie, grâce à ses années de pratique dans la personnalité de Julien, lui répond fermement. C'est pas du perfectionnisme, Julien, c'est de la prévention, explique-t-elle sans hausser la voix. Les dynamiques de groupe sont parfois imprévisibles, il suffit qu'une personne, même sans le vouloir, prenne un peu trop de place pour que les autres s'autocensurent. Julien n'ose pas trop insister et pose directement la question. Et comment on évite ça? Sophie débite sa réponse comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Ça, c'est une chose qui m'avait marqué quand on l'avait étudié à l'université. Ça a donné lieu à 2 semaines de travaux pratiques. Donc, d'abord, on déroule chaque question en 3 temps. Première étape, la divergence. On ouvre grand les vannes, chacun balance toutes les idées qui lui passent par la tête, même les plus folles, sans aucune censure ni commentaire, grâce à des post-it. C'est un feu d'artifice, la quantité prime. Un court silence, puis Julien reprend. Donc personne ne critique, c'est ça? Exactement, Sophie enchaîne, posant aussitôt la deuxième pierre. Ensuite, vient la clarification. On regroupe les post-it, on reformule. On se demande, qu'entends-tu exactement par? On repère les doublons, on précise les zones floues, les éclats d'idées se transforment alors en constellations cohérentes. Julien hoche la tête, visiblement séduit. Et la convergence alors? Oh, c'est la troisième vague, poursuit-elle. Le regard pétillant. On sélectionne et on priorise. On confronte, on vote, on tranche. Au final, seules les idées les plus pertinentes restent debout. Cette cadence et l'usage de post-it avant de s'exprimer empêchent l'orateur le plus influent d'imposer sa vision. Chacun a d'abord l'espace pour penser, puis pour préciser, puis pour choisir ensemble. Julien sourit. 3 temps, 3 respirations. On dirait presque une pièce en 3 actes où chacun tient un vrai rôle. Conscient que le focus group n'est qu'un début, il planifie de collecter les données de chaque participant et de demander leur consentement pour les recontacter ultérieurement, assurant ainsi un suivi continu et l'enrichissement de leur base de données pour les analyses futures. Pour l'animation du focus group, ils prennent en compte le conseil que Max leur a délivré avant de s'absenter. Sophie animera la première partie, tandis que Julien prendra des notes. Puis ils échangeront les rôles pour la seconde moitié de la session. En guise de remerciement, ils imaginent un petit jeu pour les participants, un essai gratuit du casque, où chaque personne pense à un objet que le casque doit deviner. C'est à la fois ludique et révélateur des capacités de leur technologie. En revanche, ils évoquent plutôt un cadeau surprise dans la promotion de leur événement, pour éviter de casser leur atelier dès le départ en influençant les échanges. Une fois le déroulement du focus group bien défini, Sophie et Julien passent à l'action et Max les rejoint. Ils semblent avoir de solides relations à l'hôpital et, avec son aide, ils utilisent les imprimantes de l'établissement pour créer les flyers. Ces derniers sont ensuite distribués à tous les étages, invitant le personnel et les patients à se rendre dans une salle de célébration discrètement nichée au fond du café. Lorsque l'horloge affiche l'heure annoncée, Julien maintient la porte ouverte et laisse entrer une vingtaine de participants. La pièce, logée au rez-de-chaussée de l'hôpital, possède un vaste mur bleu ciel que Sophie et lui ont préparé en vitesse. Deux grandes bandes verticales de scotch repositionnables y délimitent déjà les colonnes correspondant aux questions du jour. Face à ce panneau improvisé, une table ronde occupe le centre, flanquée de deux tables rectangulaires donnant à chacun la possibilité de s'installer à l'aise. Un vidéoprojecteur dort contre le plafond, inutilisé pour l'occasion. Ils veulent des échanges sans écran interposé. Le brouhaha retombe lorsque Sophie s'avance vers le centre de la pièce. « Merci d'être venue, commente-t-elle. Vous avez sans doute aperçu nos flyers annonçant un atelier sur les obstacles à la communication. Concrètement, nous travaillons sur un dispositif qui, à terme, facilitera la transmission instantanée des informations. Avant d'aller plus loin, nous avons besoin de comprendre vos réalités quotidiennes. Où la parole se perd, où le message se transforme ou se déforme, pourquoi les malentendus ralentissent votre travail. Aujourd'hui, vous êtes nos éclaireurs. » Elle désigne le grand mur bleu. De fines bandes de scotch y tracent deux colonnes, chacune prête à recevoir un thème. « Ce mur est à vous. Au cours de notre échange, vous allez être invité à utiliser les post-it pour y noter vos idées. Utilisez-en autant que vous le souhaitez. Ne vous retenez pas. Nous allons démarrer avec une première question dans laquelle vous allez répondre en plusieurs phases. Dans cette première phase, aucune critique. Nous cherchons la quantité avant la qualité. Vous pouvez aussi rebondir sur l'idée d'une autre personne avec un nouveau post-it. » D'un geste, elle indique les carrés multicolores et ajoute que les feutres sont également à disposition à côté. Les participants se répartissent autour du mur, feutres et post-it à la main, prêts à faire surgir leurs idées sur le bleu du mur. Non sans un certain stress, elle pose alors la première question. Existe-t-il, dans votre travail, des situations où la communication vous ralentit ou déforme l'information ? Un chronomètre de 10 minutes démarre aussitôt. Chacun se concentre sur son post-it, la tête légèrement inclinée vers le papier. Les stylos filent, laissent surgir une pluie d'idées griffonnées à toute vitesse. Aucun mot ne s'élève. Seuls les pointes feutres frottent le carton coloré. Une fois l'inspiration couchée, chaque participant se lève tour à tour pour coller son idée sur le mur, formant bientôt une mosaïque bigarrée où chaque pensée, grande ou minuscule, trouve sa place et reste visible de tous. La salle respire à l'unisson, suspendue entre silence studieux et cliquetis lointain du chronomètre. Le chronomètre s'arrête et un bref tintement rebondit contre les murs. L'exercice passe à la seconde phase avec trois missions: partage, clarification, tri collectif. Sophie avance d'un pas pour capter l'attention. Elle informe des règles. Pour cette seconde phase, chacun présente ses idées. Pendant que la personne présente ses idées, les autres posent toutes les questions nécessaires pour comprendre. Surtout, pas de jugement. Et si deux post-it ont des idées similaires ou dont un thème est commun, rapprochez-les. Qui commence ? Le cercle hésite un instant. Un ouvrier en bleu de travail se lève finalement, traverse la pièce jusqu'au mur fourmillant de carrés colorés, puis pose un doigt sur l'un de ses post-it. Le vacarme des machines dérange la communication. Sa voix résonne avec assurance. L'audience n'a pas l'air de saisir ce qu'il raconte. Sophie réalise soudain que cette affirmation manque de contexte, car ils ne se connaissent pas. Elle arrête tout en s'excusant et propose un tour de table éclair. Nom, rôle, contexte, le groupe se découvre infirmier, ouvrier, ingénieur et aidant compose un étonnant mélange. Les présentations terminées, la phase de partage peut reprendre. Un ingénieur de maintenance demande aussitôt: quel type de bruit gêne le plus ? Les alarmes ? La chaîne elle-même ? Les chariots ? L'ouvrier décrit la cadence ininterrompue des presses et le claquement sec des boîtes métalliques qui retombent dans les bacs. Deux post-it voisins, l'un sur les alarmes, l'autre sur la fatigue auditive, migrent pour rejoindre le sien. Un petit groupe thématique se forme. Une infirmière prend la relève. Elle désigne un carré jaune pâle. Entre les alarmes de monitoring et les appels patients, on répète sans cesse la même consigne. Un brancardier ajoute qu'il doit souvent hausser la voix, ce qui aggrave la confusion. Tous trois déplacent leurs notes côte à côte. Plus loin, une chef d'atelier lève la main, puis s'avance vers un post-it orange. « Fatigue visuelle !» dit-elle. « Les voyants s'allument partout. À force, on n'y prête plus attention. » Elle précise la différence entre un témoin critique et une simple notification. L'infirmière reconnaît la même dérive dans les couloirs de cardiologie. Elle arrache son second post-it et le place sous celui de la chef d'atelier. Un nœud signal visuel se constitue. Sophie, debout près du tableau, ajuste légèrement les carrés. À chaque précision, un post-it se déplace. Un autre se recouvre, comme si la mosaïque vivait d'elle-même. Les post-it jusque-là éclatés sur le mur se rapprochent naturellement, guidés par les thèmes non encore nommés, mais qui les rassemblent a priori. Sophie annonce enfin la dernière phase de travail autour de la première question, la convergence. Les participants terminent de regrouper les post-it par thème ou type d'idée tout en continuant à challenger le contenu. Le lien entre alarme permanente et fatigue auditive suscite un débat animé. Les post-it migrent de nouveau, fusionnent ou se scindent. Julien, un sourire aux lèvres, observe la dynamique. Sophie propose les noms des thèmes, bruit, signal visuel, fatigue auditive. Une superviseure logistique déplace son post-it pour la cinquième fois. « Ah, je réalise que mon idée s'applique au groupe sur le signal visuel !» dit-elle, en riant légèrement. Elle déplace son post-it et en ajoute un autre, inspiré par ses collègues. Après une discussion riche sur les défis de la communication, arrive le moment de la seconde question sur laquelle ils dévoilent leur projet de casque de lecture de pensée, reliant ainsi le thème à leur technologie. La voix de Sophie se fait plus basse, presque conspiratrice. « Nous voudrions maintenant vous parler d'un prototype, un casque de lecture de pensée capable de transformer des signaux neuronaux en mots et en images. » Un frémissement parcourt la pièce, moitié curiosité, moitié méfiance. Un homme, à la veste froissée, bondit aussitôt de sa chaise. Il claque la table, renverse son gobelet de café. « Votre gadget, c'est la porte ouverte à un régime totalitaire. Vous enrichissez encore les poches déjà bien pleines de certains. Bande de niais condescendants avec vos diplômes !» La chaise crisse. Avant que quiconque n'intervienne, il tourne les talons et claque la porte, laissant un silence tranchant dans son sillage. Julien reste figé une seconde, la bouche entrouverte, puis se racle la gorge, et un autre participant, la cinquantaine posée, relève calmement la tête. « Vous rendez compte du chemin sur lequel vous nous emmenez? Le totalitarisme de pensée n'est plus une dystopie si votre casque voit le jour !» Sophie prend la parole sans trembler. Notre code est basé sur des technologies accessibles à tous. Nous détournons ces technologies existantes pour répondre à des besoins concrets. Nous voulons encadrer ces usages, pas ouvrir la boîte de Pandore. La réplique ne suffit pas à dissiper toutes les rides d'inquiétude. Pourtant, au fond de la salle, une voix s'élève. À l'époque de Gutenberg, on sabotait les presses sous prétexte qu'elles menaçaient l'ordre établi. Aujourd'hui, l'imprimerie est le socle de notre culture. D'autres acquiescent, balayant l'air d'un geste fataliste. Il ne sert à rien de lutter contre le progrès. L'atmosphère demeure tendue, mais Julien respire un grand coup et relance. Si vous le voulez bien, passons au brainstorming. Même exercice que tout à l'heure. Le personnel de l'hôpital exprime son enthousiasme en partageant des anecdotes poignantes. Parmi les opposants restés dans la salle, l'un couvre le mur de post-it aux messages lugubres, détournant chaque idée pour en exposer la menace sous-jacente. Julien et Sophie retiennent leur souffle. Ils redoutent que ces sombres annotations ne musellent l'élan d'expression du groupe. Puis les échanges débutent. Une infirmière raconte. Nous avons un patient, un ancien musicien, qui a perdu la parole après un AVC. Imaginez s'il pouvait communiquer ses pensées à nouveau. » Un médecin ajoute. Oh, ce casque pourrait révolutionner notre approche des soins aux patients traumatisés, leur donnant une voix là où ils n'en ont plus. » Les patients, eux, voient des usages variés. Un DRH présent explique. Dans notre entreprise, ce casque pourrait transformer nos séances de brainstorming en capturant des idées en temps réel sans interruption. Un ouvrier d'usine enchaîne. On travaille dans un environnement tellement bruyant que parler est souvent impossible. Avec ce casque, la communication deviendrait fluide et efficace. Les échanges s'enflamment. Un patient, ancien professeur, lève la main. « Et si on installait ce casque dans les écoles pour aider les enfants souffrant de troubles de la communication ?» À ces mots, l'un des sceptiques se cabre, le visage blême. Imaginer un lecteur de pensée sur des mineurs lui est insupportable. Il se lève d'un bond, fulmine, puis claque la porte, laissant derrière lui un silence hérissé de tension. À la fin de la session, Sophie et Julien prennent soin de noter les coordonnées des participants qui souhaitent être recontactés. Un kinésithérapeute s'approche. « Je serais ravi de vous montrer notre centre de rééducation. Pourriez tester le casque en conditions réelles. » La DRH leur donne sa carte. « Venez voir comment nous travaillons. Je suis sûr que vous découvrirez d'autres applications possibles. » En quittant l'événement, Sophie et Julien débordent d'idées. Sophie, émue, confie à Julien. Ces discussions m'ont ouvert les yeux sur des possibilités que nous n'avions jamais envisagées. Julien acquiesce. Oui, pour la première fois, j'ai l'impression que nous avons un véritable réseau de soutien. Nous ne sommes plus seuls dans cette aventure. Sophie partage un dernier regard complice avec Julien. On a du pain sur la planche, mais je pense qu'on tient quelque chose, Julien. Oui, acquiesce-t-il. Et on va tout faire pour que ça marche.